des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour.
Nous vous retrouvons pour votre chronique, les femmes écrivains ou écrivaines, selon...
Écrivaines, oui, maintenant, bien sûr, écrivaines.
Alors, à quelle femme est-ce que vous vous consacrez aujourd'hui ?
À une très grande écrivaine. À une femme pour qui j'ai énormément d'admiration, il s'agit de Marguerite Yourcenar.
Qui était à l'Académie française.
Qui était à l'Académie française, elle a été reçue en 1980, au fauteuil de Roger Caillois. Et elle y a siégé de 1980 à 87, date de sa mort aux États-Unis.
Ce qui est malheureusement assez peu de temps.
Oui, oui.
Yourcenar n'était pas vraiment son vrai nom.
Non, c'est un pseudonyme. Elle s'appelait de son nom patronymique Marguerite de Crayencourt. Crayencourt, comme on voudra. Elle est née à Bruxelles en 1903 d'un père français qui appartenait à une vieille famille du Nord. De toute façon... Les ciels du Nord l'inspireront beaucoup, notamment dans l'œuvre noire dont nous parlerons, d'une mère belge qu'elle n'a pas connue, qui est morte quelques jours après sa naissance. Alors elle est élevée par son père, qui était un curieux oiseau, si je puis dire, qui était un joueur, il s'adonnait au jeu, et qui avait déserté l'armée à deux reprises, ce qui l'avait obligé à se réfugier en Belgique. C'est grâce à ce hasard, ou ce décret de la Providence, chacun réagit à sa façon, que nous avons eu cette grande écrivaine, Marguerite Yourcenar. Mais le père n'avait pas que des défauts, il a beaucoup encouragé Marguerite dans la pratique des langues anciennes et de la littérature. Elle s'est dotée d'une érudition fantastique. Elle a d'ailleurs obtenu son baccalauréat à 16 ans. C'est à 16 ans qu'elle a formé son grand projet, qui était d'écrire sur la vie de l'empereur romain Hadrien et du médecin Zénon, dont j'aurai l'occasion de dire que lui est un personnage imaginaire, alors que l'empereur Hadrien a parfaitement existé.
Évidemment, non pas. Je trouve ça toujours admirable, les personnes comme ça qui ont une vocation ancrée
et qui n'en démordent pas au long d'une vie. C'est un grand entêtement, une grande obstination, un grand courage en même temps, enfin, à choisir. Alors, les mémoires d'Hadrien ont paru en 1951. Donc, Marguerite Yourcenar avait déjà 48 ans, et l'œuvre noire, en 1968, elle avait donc 65 ans.
Oui, donc elle a mis beaucoup de temps pour les écrire.
Oui, entre-temps, elle a écrit beaucoup d'autres œuvres littéraires, mais enfin, ce sont ces deux œuvres-là qui sont majeures, et qui lui ont valu d'accéder à cette posture de grand écrivain. En fait, elle n'a vécu que dans ses manuscrits, que par la plume, à l'exception d'une carrière assez brève d'enseignante, aux États-Unis. Elle s'était réfugiée aux États-Unis après l'invasion de la France par les nazis. Elle s'y est établie définitivement en 1950 dans l'île des Monts Déserts, sur la côte atlantique. C'est tout en haut, tout au nord des États-Unis.
Pour commencer, parlez-nous des mémoires d'Hadrien.
Oui, les mémoires d'Hadrien, c'est, on pourrait dire d'un mot, une des très rares fois, peut-être la seule, je ne sais pas, il faudrait en débattre, dans l'histoire littéraire où l'érudition réussit complètement son mariage avec le récit. Comme vous savez, je suis très épris des romans historiques.
Et vous en écrivez vous-même ?
Ça m'arrive. Et je suis très étonné, très admiratif, stupéfait, il faudrait trouver des adjectifs adéquats, devant cette fabuleuse connaissance de l'Antiquité, mais la façon dont elle est restituée. C'est une connaissance totalement assimilée. À aucun moment, on ne voit paraître, si peu que ce soit, le cuistre ou le bas bleu, comme on voudra. Ça n'est jamais un pédant, ça n'est jamais un portant, ça ne vient jamais se greffer sur le récit, ou plutôt sur la méditation, parce qu'on ne peut pas dire... que le mémoire d'Hadrien soit un récit.
Ce n'est pas des connaissances démonstratives.
Ah, pas du tout. L'érudition n'affleure jamais. C'est fabuleux, tout coule de source, une espèce de grâce, de miracle. Il n'y a rien d'artificiel. On a l'impression vraiment que c'est l'empereur Hadrien qui parle, ou en tout cas un contemporain qui vit son époque, les mœurs de son époque, les objets, les décors. C'est fabuleux. Alors évidemment, il n'y a pas d'action... au sens premier du plus mot.
Oui, c'est pas un roman d'aventure.
C'est pas du tout un roman d'aventure, il n'y a pas de suspense. Les amateurs de suspense n'ont pas tellement place ici. C'est uniquement la confidence d'un vieil homme arrivé au bout de sa route, ou presque, qui jette un regard, pas mélancolique d'ailleurs, un regard sur l'ensemble de sa vie, sous forme de lettres qu'il écrit à son héritier. Bon, c'est un artifice littéraire, la lettre, mais ça permet à l'auteur, à Marguerite Yourcenar, d'écrire à la première personne, puisque c'est Adrien qui est censé s'adresser à son correspondant. Alors, il raconte sa vie pas sous la forme d'une chronologie. Il ne dit pas « en telle année, j'ai fait ceci », non. Il enchaîne les réflexions, il brode les réflexions, il est une espèce de tapisserie autour des thèmes principaux qui ont éclairé ou obscurci sa vie. Et on voit apparaître notamment l'ambition, la lutte pour le pouvoir, la relativité de toutes ces choses-là, l'amour... L'amour fragile, c'est un amour de son époque, c'est un amour grec, même s'il est par ailleurs marié, mais il est très épris d'un jeune homme qui s'appelle Antinoüs, qui va se suicider. Et il y a une description admirable du deuil, de la façon dont, après la mort d'un être cher, on s'enroule dans son deuil, on s'abandonne à des rêveries, on revit ce qu'on voudrait revivre, qu'on n'a pas vécu suffisamment bien, on y croit, on y croit. Et le lecteur ne peut pas s'empêcher d'être pris de sympathie et d'admiration pour Adrien, avec son amour de la culture grecque, justement, ses voyages aux quatre coins du monde, ses travaux, ses chagrins, mais aussi, et ça peut être une des choses les plus importantes, sa relation avec les problèmes culturels et politiques de son époque, et le jugement qu'il porte sur les œuvres philosophiques et morales, sur les religions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui-même a subi les rites initiatiques des mystères d'Éleusis, qu'il n'aime pas d'ailleurs, parce qu'il n'aime pas le prosélytisme, encore moins le fanatisme. C'est un esprit très éclairé pour son temps. Il est en avant sur son temps, il aime la tolérance. Il parle au passage des chrétiens comme d'une secte. Et tout ça est empreint d'une sérénité assez étrange, d'une espèce de douceur, même par moments, bien que le livre aborde des thèmes qui parfois sont tragiques. C'est la rêverie d'un homme qui est parvenu à la sagesse et qui jette sur les autres et sur lui-même un regard sans illusion, mais sans amertume. C'est vraiment très beau. Chef-d'œuvre.
Tout cela porté par le style de Yourcenar, qui est si savoureux.
Oui, alors le style est fabuleux, parce que c'est le mot juste à la place juste. C'est comme l'élégance dont parlent les Britanniques. Il faut que ça ne se voit pas. Un homme dont on remarque qu'il est élégant n'est pas élégant. Eh bien là,
c'est pas quelque chose d'un peu britannique, cette Yourcenar, d'ailleurs.
Peut-être, oui. Elle a vécu aux États-Unis, quelque chose d'anglo-saxon quand même, oui, peut-être. C'est un style à la fois classique et très moderne, c'est ça qui est assez étonnant, comme tout ce qui est parfait d'ailleurs. C'est un style sans âge, c'est d'une fluide, dense. Je n'exclus pas de temps en temps un mot particulièrement heureux, un adjectif particulièrement bien placé, qui réveille en nous des résonances, vraiment du grand art, du très grand art.
Pareil pour L'Œuvre noire, qui, ce roman-ci, se place dans un tout autre contexte historique.
Oui, dans une autre époque, et ce qui est admirable, c'est qu'elle ait pu assimiler aussi complètement deux époques. On comprend pourquoi elle a mis si longtemps à écrire ces deux livres. C'est en fait les deux tapisseries d'une vie entière. Parce que là, il s'agit de l'époque intermédiaire entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Alors, ça n'est plus une œuvre à la première personne, c'est un récit. On est plus près du roman que dans les mémoires d'Adrien. Il y a quelque chose de plus sombre, d'ailleurs de plus fuligineux dans L'Œuvre noire, l'époque liée quelque chose, puisque c'est la période contrastée qui marque la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Alors, c'est une époque très dure, parce que ceux qui ouvrent leur esprit aux idées nouvelles, et notamment à la liberté de réfléchir sur les mystères de la vie, comme Zénon, sont en proie à la vindicte d'un régime qui est encore placé sous le signe d'une religion à la fois très forte et très étroite. D'ailleurs, il va le payer de sa liberté et de sa vie. Il est interrogé par un chanoine qui lui veut du bien et qui lui propose un certain nombre de concessions qui lui permettraient d'échapper à la punition définitive, parce qu'on sent bien qu'il joue sa vie. Et Zénon refuse. Et il refuse tellement qu'il va choisir sa propre fin en se suicidant, en laissant perdre son sang. Alors il y a un deuxième personnage en contrepoint qui traverse le roman, qui est un ami de Jonas de Zénon. C'est Simon. Simon, lui, a choisi la voie de l'aventure. C'est le beau gars un peu... Non pas un peu simplé, parce qu'il est intelligent aussi, mais il va louer sa force comme mercenaire à différents seigneurs de guerre. Et il mourra, lui, après avoir, disons, épuisé toutes les joies de l'aventure et de l'action. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marguerite Yourcenar ne donne pas à choisir entre deux vocations différentes ou équivalentes de la vie, ni entre deux morales, qui pourraient se contrebalancer, la morale de l'action, la morale de la méditation, si je puis dire, qui sort de la méditation, si ce n'est que le plus libre des deux, c'est d'une modernité forte. C'est clairement, sous la plume de l'auteur, Zénon, ce médecin qui, dans sa prison, dans ses fers, jusque dans sa mort, lève une espèce de protestation au nom de l'éminente dignité de l'homme face à toutes les tyrannies de l'esprit.
Est-ce qu'il y a une différence d'écriture entre les deux romans ?
Un peu. Oui, l'écriture est un peu plus tournée vers l'action, et puis elle s'autorise des dialogues, ce qu'évidemment Adrien ne pouvait pas faire. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont, comme le reste, admirablement placés. C'est une écriture de velours noir, je dirais, pour cette œuvre noire. Alors, pour terminer, on a commencé par l'Académie française, terminons par le prix Femina, que l'œuvre noire, en 1968, intéressant, a obtenu à l'unanimité de ces dames du Femina, ce qui tendrait à prouver que les prix littéraires, parfois, ont du bon.
Bien, merci Marguerite Yourcenar et merci à vous, Jean Mouduit. Est-ce que vous ne voudriez pas nous lire quand même des petits extraits ?
Je vais vous lire deux petits extraits, un des Mémoires d'Adrien.
Vous les avez mis en appétit quand même.
Oui. J'offre ici, c'est Adrien qui parle, c'est pas moi, j'offre ici aux moralistes une occasion facile de triompher de moi. Mes censeurs s'apprêtent à montrer dans mon malheur les suites d'un égarement, le résultat d'un excès. Il m'est d'autant plus difficile de les contredire que je vois mal en quoi consiste l'égarement et où se situe l'excès. Je m'efforce de ramener mon crime, si c'en est un, à des proportions justes. Je me dis que le suicide n'est pas rare et qu'il est commun de mourir à 20 ans. La mort d'Antinoüs, Antinoüs c'est son amour, c'est le jeune homme duquel il était pris. La mort d'Antinoüs n'est un problème et une catastrophe que pour moi seul. Il se peut que ce désastre ait été inséparable d'un trop-plein de joie, d'un surcroît d'expérience dont je n'aurais pas consenti à me priver moi-même, ni à priver mon compagnon de danger. Mes remords même sont devenus peu à peu une forme amère de possession, une manière de m'assurer que j'ai été jusqu'au bout le triste maître de son destin. Mais je n'ignore pas qu'il faut compter avec les décisions de ce bel étranger, que reste malgré tout chaque être qu'on aime. En prenant sur moi toute la faute, je réduis cette jeune figure aux proportions d'une statuette de cire que j'aurais pétrie, puis écrasée entre mes mains. Je n'ai pas le droit de déprécier le singulier chef-d'œuvre que fut son départ. Je dois laisser à cet enfant le mérite de sa propre mort. Alors ça, c'est justement le deuil. Ce n'est une partie de l'évocation du deuil. Et pour être passé par là, je médite sur la profonde justesse de ce que évoque Marguerite Yourcenar. Je voudrais dire aussi un tout petit passage sur la dédicace qu'il fera quelques mois plus tard à son amant, disons le mot. À Athènes, la dédicace de l'Olympéion donna lieu 3 mois plus tard à des fêtes qui rappelaient les solennités romaines. Mais ce qui à Rome s'était passé sur terre se situa là-bas en plein ciel. Par une blonde après-midi d'automne, je pris place sous ce portique conçu à l'échelle surhumaine de Zeus. Ce temple de marbre, élevé sur le lieu où deux Calions vit cesser le déluge, semblait perdre son poids flottait comme un lourd nuage blanc. Mon vêtement rituel s'accordait au ton du soir sur l'immeuble tout proche. J'avais chargé Paul Emon du discours inauguratoire. Ce fut là que la Grèce me décerna ses appellations divines, où je voyais à la fois une source de prestige et le but le plus secret des travaux de ma vie. Évergète, olympien, épiphane, maître de tout. Et le plus beau, le plus difficile à mériter de tous ces titres, ionien, philhellène. Il y avait de l'acteur en Paul Emon, mais les jeux de physionomie d'un grand comédien traduisent parfois une émotion à laquelle participe toute une foule, tout un siècle. Il leva les yeux, se recueillit avant son exorde, parut rassembler en lui tous les dons contenus dans ce monument du temps. J'avais collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même. L'autorité que j'exerçais était moins un pouvoir qu'une mystérieuse puissance supérieure à l'homme, mais qui n'agit efficacement qu'à travers l'intermédiaire d'une personne humaine. Le mariage de Rome et d'Athènes s'était accompli, le passé retrouvait un visage d'avenir, la Grèce repartait comme un navire longtemps immobilisé par un calme qui sent de nouveau dans ses voiles la poussée du vent. Ce fut alors qu'une mélancolie d'un instant me serra le cœur. Je songeai que les mots d'achèvement, de perfection, contiennent en eux le mot de fin. Peut-être n'avais-je fait qu'offrir une proie de plus au temps dévorateur. Nous pénétrâmes ensuite dans l'intérieur du temple où les sculpteurs s'affairaient encore. L'immense ébauche du Zeus d'or et d'ivoire éclairait vaguement la pénombre. Au pied de l'échafaudage, le grand Python, que j'avais fait chercher aux Indes pour le consacrer dans ce sanctuaire grec, reposait déjà dans sa corbeille de filigrane, bête divine, emblème rampant de l'esprit de la terre associé de tout temps au jeune homme nu qui symbolise le génie de l'empereur. Antinous, entrant de plus en plus dans ce rôle, servit lui-même au monstre sa ration de mésange aux ailes rognées. Puis, levant les bras, il pria. Je savais que cette prière faite pour moi ne s'adressait qu'à moi seul, mais je n'étais pas assez Dieu pour en deviner le sens, ni pour savoir si elle serait un jour ou l'autre exaucée. Ce fut un soulagement de sortir de ce silence, de cette pâleur bleue, de retrouver les rues d'Athènes où s'allumaient les lampes, la familiarité du petit peuple, les cris dans l'air poussiéreux du soir.
Vous voudriez nous lire aussi un extrait de l'œuvre noire ?
À Zénon,
faire entendre
oui.
Aussi un petit peu Zénon.
Alors, c'est un tout autre décor, bien sûr, et une toute autre ambiance. Ça n'est plus cette grande lumière athénienne. Il évoque ses aventures féminines. Dans le nord, la dame de Phreuseux l'avait accueilli noblement, avait accueilli Zénon. Au retour de ses pérégrinations, à l'orée des contrées polaires, tout en elle était beau, sa haute taille, son teint clair, ses mains habiles à bander les plaies et à essuyer les sueurs des fièvres. L'aisance avec laquelle elle marchait sur le sol mou de la forêt, relevant tranquillement au guet des cours d'eau, sa robe de gros drap sur ses jambes nues. Instruite dans l'art des sorcières lapones, elle l'avait emmenée dans des huttes au bord des marécages où se pratiquaient des fumigations et des bains magiques accompagnés de chants. Le soir, dans son petit manoir de Phreuseux, elle lui avait offert sur la table couverte d'une toile blanche le pain de seigle et le sel, les baies et la viande séchée. Elle l'avait rejoint dans le grand lit de la chambre haute avec une sereine impudeur d'épouse. Elle était veuve et comptait se choisir pour mari à la Saint-Martin, un fermier libre du voisinage, afin d'éviter que le domaine ne retombât sous la tutelle de ses frères aînés. Il n'eut tenu qu'à lui d'exercer son art dans cette province grande comme un royaume, d'écrire ses traités au coin d'un poêle, de monter le soir sur la tourelle, observer les astres. Néanmoins, après 8 ou 10 de ses journées d'été, qui ne sont là-bas qu'un seul jour sans ombre, il s'était remis en route pour Uppsale, où en cette saison s'était transporté la cour, espérant encore durer près du monarque, et se faire du jeune Éric, ce disciple roi, qui est pour les philosophes l'ultime chimère. Mais l'effort même d'évoquer ces personnes en exagérait l'importance et surfaisait celle de l'aventure charnelle. Le visage d'Aleï ne réapparaissait pas plus souvent que celui de soldats inconnus gelant sur les routes de Pologne et que, manque de temps et de moyens, il n'avait pu essayer de sauver. Une petite bourgeoise adultère de Pont-Saint-Esprit lui avait répugné avec la rondeur de son ventre, dissimulée sous des fronces de guipure, ses cheveux frisottants autour de ses traits tirés et jaunis, ses piteux et grossiers mensonges. Il s'était irrité des œillades qu'elle lui décochait du fond de son angoisse, ne connaissant pas d'autre moyen de subjuguer un homme. Et pourtant, il avait risqué pour elle son bon renom de médecin, la hâte d'agir vite avant le retour du mari jaloux, le misérable reste de la conjonction humaine qu'il avait fallu enterrer sous un olivier du jardin, l'achat à prix d'or du silence des servantes qui avaient veillé madame et lavé les draps tachés de sang, tout cela avait créé entre lui et cette malheureuse une intimité de complice, et il l'avait mieux connue qu'un amant, une quelconque amante. La dame de Frezeux avait été entièrement bénéfique, mais pas plus que cette boulangère au teint grêlé qu'il avait secouru un soir où il s'était assis à Salzbourg sous l'auvent de sa boutique. C'était après sa fuite d'Innsbruck. Il était recru et transi, ayant forcé les étapes par de mauvais chemins sous la neige. Elle avait examiné à travers le volet de sa devanture cet homme rancogné dehors sur le petit banc de pierre et, le prenant sans doute pour un mendiant, lui avait tendu une miche encore chaude. Puis, prudemment, elle avait renfoncé le crochet qui assujettissait les vantaux. Il n'ignorait pas que cette méfiance bienfaitrice eût aussi bien pu, le cas échéant, lui jeter une brique ou une pelle. Elle n'en était pas moins un des visages de la bénignité. L'amitié ou l'aversion comptait d'ailleurs finalement aussi peu que les blandisses charnelles. Voilà, c'est un écrivain qui maîtrise, une écrivaine, pardon, encore, qui maîtrise vraiment tout. Et là, ce récit, en une page, où on évoque les aventures qui sont déroulées au fil des temps et dans tous les pays d'Europe, c'est fabuleux, de maîtrise, fabuleux.
Merci Jean-Baudouin.
C'est bon de pouvoir admirer sans retenue.